C'est l'heure de Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. Séquence Parc sur le 107 FM.
Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des rapaces et plus particulièrement d'un guide édité par le Parc National qui leur est consacré. Cet ouvrage axé sur leur protection propose un point sur la situation des rapaces qu'il est possible de voir sur le territoire du Parc National avec les connaissances récentes pour chacune des espèces. 27 espèces nichent régulièrement sur le territoire du parc, dont 9 espèces nocturnes. Alors pour en parler, je suis en compagnie d'Irène Lebeau, ancienne maire de Dourby, Ingrid Oxbergen, chargée de mission édition au Parc National, et Émilien Hérault, qui est garde-moniteur sur le massif des Vallées-Cévenoles et également coordinateur du groupe Rapaces au Parc. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Mais déjà, tout d'abord, Ingrid, comment se présente ce guide? Qu'est-ce qu'on peut y trouver?
Alors, c'est un guide pour apprendre ou en tout cas avoir de la connaissance sur les espèces que l'on peut observer dans le Parc National des Cévennes, pour les reconnaître, pour avoir aussi comprendre leurs besoins et avoir des petits gestes chacun qui peuvent être à portée de chacun qui sont favorables à ces espèces. Voilà, donc ça c'est globalement c'est comme ça qu'on a travaillé. Après, plus précisément, c'est un livre en deux parties, avec une partie introductive où on explique en France et dans le parc quels sont les rapaces diurnes, les rapaces nocturnes, à quoi on les reconnaît, quelles sont leurs caractéristiques. Ensuite, on explique aussi d'où est venue l'idée de conserver les rapaces en France, donc un peu d'histoire. Les outils qui ont été mis en place pour pouvoir les conserver. Donc on explique les outils de suivi en France et dans le parc, et notamment un outil qui est très important aujourd'hui, qui est un outil majeur, qui s'appelle les zones de sensibilité majeure. Donc ça définit un périmètre et une période pendant lesquelles on va être très attentif à un couple qui s'est installé, qui se reproduit et donc à surveiller son nid. Voilà.
Et oui, puis, on y reviendra plus en détail. Ouais.
On va y revenir, oui. On va y revenir. Et puis, c'est pas seulement une période et un périmètre, c'est aussi des habitats naturels qu'il faut conserver pour que les espèces y trouvent ce dont elles ont besoin. Et puis, c'est aussi dans un paysage avec certains éléments qui sont des éléments clés pour ces espèces-là. Donc, des endroits où elles peuvent se poser, des endroits où elles peuvent surveiller, des endroits où elles vont chasser, enfin, des choses comme ça.
Et donc, il y a 15 espèces donc, qui sont présentées plus en détail. Donc, ce sont des espèces fragiles pour lesquelles le parc a un gros enjeu de conservation. Alors, je vois, on a les 4 espèces de vautours, circaète, aigle-botté, royal, autour des palombes, busard, les chouettes, chevêchettes. Émilien, il y a vraiment un enjeu sur ces espèces en particulier?
Alors oui, il y a un enjeu de conservation très important sur les rapaces, sur le parc national, parce que déjà il y a une diversité d'habitats qui est assez importante et d'altitude sur le territoire, qui fait qu'on a un bon nombre d'espèces de rapaces, plus que dans certains parcs alpins par exemple, où la limite altitudinale fait qu'on ne va pas avoir les espèces comme le circaète par exemple, ou les busards qui vont nicher un peu plus bas en altitude. Et il y a une responsabilité forte sur certaines espèces, notamment le circaète, qui a une grosse part de sa population nicheuse sur les Cévennes. L'aigle royal, qui avait quasiment disparu, plus que 2, 3, 4 couples dans les années 60. Donc certaines espèces sont plus menacées que d'autres et demandent plus d'attention que d'autres. Il y a d'autres espèces qui vont plutôt bien, comme le faucon pèlerin qui a remonté plutôt bien ses effectifs depuis les années 2000, 90-2000. Et d'autres sur lesquelles il faut veiller, comme le busard. Le busard cendré est une espèce qui est en déclin toujours au niveau national. Chez nous, ils se comportent plutôt bien parce qu'on a encore des milieux naturels comme les Landes dans lesquels ils nichent, qui sont encore à peu près bien préservés. C'est plus le cas ailleurs en France où ils s'est habitué aux céréales et donc au niveau reproduction, les coupes, les moissons sont menaçantes pour cette espèce.
Très bien. Justement, Ingrid, par rapport à ces 15 espèces, donc chacune, il y a deux pages par espèce. Enfin, voilà, comment c'est organisé pour ces 15 espèces ?
Voilà, alors on a travaillé d'abord à présenter la manière dont elle vit. Ça c'est un paragraphe qui explique un petit peu son mode de vie, où elle niche, où elle chasse, ce dont elle se nourrit, le milieu dans lequel on peut les trouver. Ensuite, il y a une partie sur la détermination, les critères de détermination spécifiques à cette espèce-là. C'est une partie qui est faite sur la base de dessins, des très très beaux dessins naturalistes qui ont été faits par une illustratrice qui s'appelle Céline Lecoq. Et puis ensuite, on a donc ces petits gestes qu'on peut avoir en faveur des rapaces et de cette espèce en particulier. Hein. Donc la période critique, c'est la période de reproduction. C'est ça qui détermine le périmètre et la période pendant laquelle il faut laisser le couple le plus tranquille possible pour qu'il puisse mener à bien sa reproduction. Et donc là, il y a les petits gestes éco-responsables, on dirait en français, c'est presque plus, puisque c'est dérivé de l'anglais, éco-bienveillant en réalité. Voilà. Et puis, il y a du son. Pour chaque espèce, on a voulu aussi donner cet petit aspect de la connaissance qui est de donner à l'entendre. Donc ça, c'est un montage qui a été fait par Marc Namblard. Et on entend dedans, alors, différents sons. C'est intéressant d'aller voir le montage des séquences qui est donné aussi par un QR code dans les ressources à la fin du livre, parce que on a par exemple un couple, une interaction, ou ça peut être une interaction aussi de la femelle avec son jeune, ça peut être des cris d'alerte, ça peut être toutes sortes de cris comme ça qui ont été mis en scène. Donc voilà, on a vraiment un petit panel de ce que dit l'espèce quand elle s'exprime par des cris. Voilà. Et puis ça peut être, pardon, je voudrais dire ça aussi, ça peut être vraiment important comme critère d'identification aussi d'une espèce, par exemple pour les espèces nocturnes, qu'on va plutôt entendre que voir. Voilà. Donc là, ça devient aussi une réelle information d'identification de l'espèce.
Est-ce que ce guide répond à une demande ?
Oui, tout à fait. Les rapaces sont un des joyaux du parc national des Cévennes. Le parc national des Cévennes est connu comme un territoire d'observation en France, mais aussi en Europe, hein, au-delà de nos frontières, depuis très longtemps. Au niveau du nombre d'espèces, le parc compte 27 espèces nicheuses et on en dénombre 34 en France. Donc c'est aussi énorme en termes d'espèces. Et ça, c'est ce que disait Emilien tout à l'heure, c'est lié notamment à la variété des milieux du parc. Voilà, donc c'est un sujet très important, très attractif aussi pour le public. On a fait plusieurs publications sur les rapaces par le passé. Le dernier en date était un cahier à destination des communes qui était sur ce sujet-là déjà, les rapaces dans le parc, les espèces qu'on protège plus, enfin qu'on suit d'un peu plus près, et ça aussi Emilien pourra en parler un peu plus, et pourquoi on le fait, et on a eu envie de refaire ce livre avec les espèces qu'on suit actuellement et en donnant donc en enrichissant l'information pour en faire un livre qui soit accessible à un plus large public.
Mais justement, Irène, donc oui, c'était à la base, hein, son prédécesseur était destiné aux communes, c'était une sorte de portée à connaissance, vous en aviez eu vent ?
Oui, je pense que c'est important, justement, j'allais dire, au niveau la communication et sensibilisation des collectivités, parce qu'elles ont vraiment un rôle à jouer en matière d'aménagement du territoire, et elles ont la connaissance aussi de tous les propriétaires, de tous les sites, donc il faut sensibiliser l'importance de préserver ces espèces, là, c'est sûr.
Donc, Emilien, donc, enfin, Ingrid le disait, les rapaces, hein, voilà, 27 sur les 34, 27 espèces nicheuses sur les 34, donc il y a un enjeu important. Et le parc a mis très tôt en place des périmètres de protection, des périmètres de quiétude. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ben oui, par le passé, on a la création du parc, hein, dans les années 70, les populations de rapaces étaient vraiment sur le déclin. Il faut savoir que pour en avoir parlé avec des agents aujourd'hui à la retraite, les premières tournées de terrain dans les années fin 60-70, c'était quand on avait vu une buse et deux, trois cresserelles, c'était une belle journée. Aujourd'hui, on peut observer pas loin d'une quinzaine d'espèces dans sa journée avec des populations plutôt conséquentes. Donc c'est quand même de bonnes choses aujourd'hui. Ça, c'est dû aussi à l'arrêté de protection en 70 des rapaces. Et puis les agents du parc à la création, certains se sont sensibilisés sur ce sujet. On nommera Bernard Ricot, Jean-Pierre Malafos... Monsieur Bonnet aussi, tout ça. Donc ils ont mis en place des périmètres de quiétude. En gros, c'était se dire, ben voilà, un aigle royal niche ici, dans cet arbre, en forêt. On va déjà communiquer auprès des acteurs locaux, des forestiers, des chasseurs. Quand on regarde là dans la revue, justement, dans ce guide, on a les périodes de quiétude. Ben, pour l'aigle royal, ça commence à partir du 1er janvier. L'activité chasse en Cévennes se termine 28 février. Donc il y a eu des contacts de prix auprès des acteurs locaux, des chasseurs, laisser ce coin tranquille à partir du 1er janvier. Ça s'est fait petit à petit et puis au fil du temps, on a mis une cartographie en place pour permettre déjà aux services instructeurs du parc de pouvoir, selon les demandes d'autorisation, de manifestations sportives, de coupe de bois, de tout un tas de choses, de dire ben, de cette période-là, du 1er janvier par exemple pour l'Aigle Royal au 1er ou 15 août, c'est pas de travaux sur le secteur ou alors des manifestations autorisées, mais en prenant des aléas pour éviter la zone de nidification. Et aujourd'hui, ben, sur ces 15 espèces, on a des périmètres de quiétude, en gros des zones de sensibilité majeure pour chaque espèce, avec un périmètre qu'on va définir nous-mêmes, avec les conditions du terrain, le relief. C'est pas une zone ronde autour, c'est si la crête est au-dessus du nid, ben c'est pas la peine d'aller au-delà de la crête à 500 mètres derrière. On sait que le rapace, lui, il est dans son petit environnement. Ce qu'il voit, c'est en dessous de lui, à côté, à gauche, à droite, mais il va pas voir derrière la crête. Donc on adapte le périmètre en fonction des exigences de l'espèce et du couple aussi qu'on connaît, parce qu'il y a des individualités. Il y a des individualités chez les oiseaux. Il y a des couples de grands ducs qui sont connus pour accepter tout à fait la présence de l'homme, pas très loin, du moment qu'on les dérange pas trop. Il y en a d'autres qui sont très méfiants. Donc ça, c'est la connaissance du terrain de chaque agent sur son triage, sur son secteur, qui va pouvoir délimiter la zone.
Irène, donc tu es l'autrice, hein, de la préface et enfin voilà, tu parles justement de ces périmètres de quiétude parce que enfin tu étais également agente à l'ONF, donc enfin voilà, il y a eu un travail avec le parc, enfin voilà, tu.
Oui, ben, et comme dit Emilien, c'était vraiment au début de l'installation de ces populations dans le parc des Cévennes, puisque ça remonte aux années 80, quand je suis arrivé, moi, dans les Cévennes. J'ai eu, dans le cadre de mon travail à l'ONF, donc, un rapace qui avait niché une aire d'aigle royal dans une coupe qu'on s'apprêtait à exploiter. Donc là, effectivement, c'est Bernard Ricot qui m'avait contacté. On a pas mal travaillé ensemble et puis on a pris des mesures de protection. Et je pense que c'était une des premières aires qui était répertoriée sur le parc. Et j'ai appris avec plaisir donc cette année. Le couple s'est installé parce qu'à l'époque, en plus, l'aire existait. Mais au moment de la coupe, il y avait un seul individu. Et c'est Bernard Ricot qui m'a bien fait comprendre l'importance de conserver la quiétude de tout le coin, parce que cette espèce revient régulièrement, peut revenir nicher. Et ça a été le cas. Donc cette année, un couple s'est installé. Il y a deux jeunes, je crois, qui se sont envolés. Donc voilà, c'est vraiment un travail au long cours qu'on fait, mais qui a porté ses fruits dans ce cas-là. Et ben les précautions, effectivement, de quiétude autour de l'air, bon, un périmètre où faut pas intervenir, des dates d'intervention, voilà. Donc, je me rappelle plus exactement ce qu'on avait fait, mais la coupe avait été reportée et on a suivi ces terres tout le long depuis quoi.
Et toi, tu avais un intérêt quand même pour l'ornithologie. Enfin, il y avait une sensibilité aussi au départ.
Oui, bah c'est vrai que depuis tout petit, je m'intéresse aux oiseaux. Ça me passionnait et j'ai passé des heures, je me rappelle, dans les arbres à essayer d'attendre que les mésanges se posent le plus près possible pour les identifier. Enfin voilà, ça me effectivement, je prends plaisir à les regarder. Il y a une variété d'espèces qui est vraiment impressionnante. Et quand on se penche un peu plus, on voit la spécificité aussi des milieux, c'est-à-dire des comportements, des habitudes alimentaires. Et c'est vraiment hyper intéressant. Mais c'est sûr que les rapaces, bon, c'est plus visible, plus facile à identifier, parce que dans les passereaux, il y a vraiment des subtilités. Donc les rapaces, je m'y suis plongé également avec plaisir et de plus en plus.
Et au printemps, donc, depuis ce printemps, tu es la marraine d'un jeune gypaète qui a été lâché sur les Goales, hein, pour la première fois.
Voilà, la première fois sur les Goales côté gare. Donc il y a un gypaète marbu, enfin plusieurs, donc il y en a quatre qui ont été relâchés. Et là aussi, j'essaye de suivre un peu l'actualité. Donc de ce que je sais, c'est viager, elle s'est envolée et tout fonctionne bien pour le moment. Elle commence à prendre ses marques et à s'éloigner de plus en plus de son lieu de lâcher, ce qui est le but, quoi.
Émilien, donc on parlait des périmètres, hein, de quiétude, des zones, enfin voilà, pour des périodes sensibles. Donc il y a ça, mais il y a aussi tout le travail des agents qui est le suivi de ces rapaces, donc qui est sur plusieurs mois, de l'hiver, automne jusqu'à l'été. Enfin ça varie selon les espèces, mais concrètement, c'est quoi la mission de suivi d'un agent pour les rapaces?
Eh ben en gros, donc on est réparti sur le territoire, hein, sur les quatre massifs du parc. Et donc chaque agent sur son secteur de travail, on a des communes en répartition par agent. On a nos couples à suivre. Donc par exemple, si je prends l'exemple des vallées Cévenoles, on a une 13 couples de cirquettes à suivre chaque année. Donc trouver le nid à partir de mars, par exemple. Les cirquettes, quand ils reviennent, ils vont à peu près exploiter le même vallon. Donc c'est des espèces qui vivent 20-30 ans, ils vont choisir un vallon, ils vont le garder, après ils vont choisir un arbre, plus ou moins selon les années, parfois le même, parfois pas. Donc le but du jeu, ça va être de trouver le nid, et puis dès lors, donc la construction du nid, les apports de branches, il faut qu'on observe ça. Donc ça se passe concrètement avec une longue vue, une paire de jumelles, se poster dans le bas du vallon, toujours en bas, pour pouvoir les voir sortir en fond de ciel, c'est plus facile. Et puis constater les apports de branches. Et à partir de là, on va cartographier le nid qui a été choisi pour l'année. Et puis ensuite, on va faire le suivi donc de la reproduction, la ponte. Donc la ponte va, l'incubation va activer la ZSM. Dès qu'il y a une ponte dans un nid, ça active le site. Donc là, on est en protection avec les périodes de quiétude à respecter. Donc on prévient l'ONF quand c'est à l'ONF, on prévient les propriétaires privés quand c'est le cas. Et puis aussi, en fonction de ces activations de zones de sensibilité majeure, on va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une manifestation sportive qui va s'organiser, pouvoir préconiser un passage plutôt que l'autre. Et puis on va aller comme ça jusqu'à l'envol des jeunes. Donc là, on va arriver maintenant sur la plupart des espèces vont être envolées. Au 15 août, ça va être fait. Et le cirquette sera le dernier aux alentours du 15 septembre.
Et donc ça fait l'objet de rapports annuels. Et c'est des données qui remontent au niveau national parce que la plupart de ces espèces ce qu'on appelle un programme national d'action.
Oui.
Parce qu'il y a un gros enjeu de conservation.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a un outil numérique là, qui s'appelle Geomatica, qui est un outil qui a été développé dans les Pyrénées, qui est piloté par les DREAL et dans lequel on va remplir toutes ces données en temps réel. Pour pouvoir activer, désactiver les zones. C'est pareil, si on a un aigle royal qui va échouer sa reproduction, on va l'indiquer dans ce logiciel qui va désactiver la zone. On peut ainsi prévenir les acteurs locaux que du coup, c'est bon, vous pouvez enclencher les coupes. Vous pouvez y aller parce qu'il n'y a pas eu de reproduction cette année, il y a eu un échec. Donc c'est un outil qui est vraiment très intéressant, sur lequel on travaille depuis 3-4 ans maintenant et qui nous permet d'être réactifs en fonction des données dans l'année, quoi.
Et donc là, c'est peut-être un peu prématuré, mais bon, on connaît déjà une canicule qui a commencé très tôt, au mois de mai. Est-ce que ça a eu peut-être déjà un impact ? Est-ce qu'on a des estimations sur certaines espèces ? Est-ce que ça met en péril la repro pour certaines ?
Alors oui, il y a des cycles dans les reproductions. C'est que, par exemple, sur une année où aujourd'hui il y a 16 couples, par exemple, si on prend l'exemple de l'aigle royal, il y a 16 couples sur le territoire du parc. Cette année, c'est une très mauvaise année au niveau de la reproduction. C'est souvent lié à une bonne année, l'année précédente. Donc là, c'était le cas. C'est le cas cette année. Mais on n'a pas encore toutes les données qui vont nous permettre de dire ou pas si la canicule a été néfaste pour les espèces. Mais on sait quand même, au niveau national, on a eu des retours, notamment sur le busard cendré, c'est une catastrophe, surtout sur les nids en céréales. La chaleur est telle sur les plaines de Poitiers, le bassin là, du Poitou-Charentes, il y a eu énormément de mortalité sur les jeunes. Chez nous, le fait qu'ils nichent dans les landes à jeûner au sol se font un peu tampon, c'est mieux pour le moment. On a quand même des échecs là, on a des premiers échecs sur des zones des vallées Cévenoles en landes. Donc on n'a pas encore toutes les données, mais il est clair qu'il y a des espèces qui supportent mal la chaleur. Les autours des palombes, bus variables, toutes ces espèces qui sont sous canopée sont un peu mieux protégées. Mais tout ce qui est le cirquette, qui est quand même une espèce qui aime le chaud quand même, hein, qui niche sud-est sur une branche bien ouverte au soleil, il y a quelques cas de mortalité, même si je pense que ce n'est pas forcément une très mauvaise année. Ils supportent quand même bien la chaleur.
Et il y a des reptiles.
Il y a des reptiles, ouais, qui doivent sortir très tôt le matin et très tard le soir. Ça chauffe tellement fort. Mais du coup, ça, c'est pareil. Pour les suivis, il faut partir très tôt le matin. Sinon, à partir de 10h30, c'est cuit. Les rapaces montent à haute altitude ou on ne les voit plus, quoi. Donc oui, je pense qu'il y aura un impact. On va le voir à la fin de l'année sur les bilans, parce qu'on fait des bilans chaque année de toutes ces repros, du nombre de jeunes à l'envol. On aura les chiffres en fin d'année. Pour le moment, on ne peut pas le dire, mais il est fort probable qu'il y ait des impacts, oui.
Oui, mais comme tu le disais tout à l'heure, bon, globalement, depuis la mise en place de ces périmètres, hein, au-delà du facteur météo, les rapaces se portent mieux, à part peut-être, tu disais, les busards.
Oui, globalement, c'est quand même mieux. Les rapaces sont dans un bon état de santé sur le territoire du parc. On a quand même des espèces, hein, on peut noter le busard, les deux espèces de busard, hein, busard Saint-Martin et busard cendré. La chouette chevêche qui connaît un déclin un peu, on constate qu'il y a des baisses chez cette espèce. Gypaète barbu, bon, ça reste encore fragile, on n'a pas encore une reproduction enregistrée, ça va le venir, on l'espère tous, mais ce sont des espèces longivives, hein, qui vivent 20-30 ans, donc la protection des adultes est vraiment primordiale, et la protection des nichés aussi. Globalement, ça se passe plutôt bien. Mais attention, parce que sur le reste du territoire, au niveau national, la logique n'est pas tout à fait la même quand même. On a des milieux qui sont encore très préservés ici. Et le fait du travail qui est fait, qui est fait depuis de nombreuses années ici, porte ses fruits. Il est clair qu'en communiquant avec les acteurs locaux, en sensibilisant, on a fait l'an passé aussi avec tous les gens qui demandent des autorisations, justement, on a essayé d'expliquer pourquoi, par exemple pour une course de chevaux, pourquoi une telle année on l'a laissé passer là, et on a essayé de faire comprendre tout ça, ça a été bien perçu. Je pense que c'est des moments qu'il faut reprogrammer, il faut expliquer. Et vivre avec. En fait, le but du jeu, c'est de vivre avec ces espèces et de ne pas prendre ça comme une contrainte, mais plutôt de vivre avec eux. Et ça, c'est une logique qu'il faut essayer d'instaurer partout, parce que c'est pas le cas partout.
Tu partages, Irène, ce travail de sensibilisation en tant que maire
Complètement. Puis surtout, d'un point de vue professionnel, moi, je pense qu'on fait de la communication, mais on n'en fait jamais assez, quoi. Il faut la répéter. Parce que aussi les personnels changent. Et justement, j'avais une autre anecdote, parce que j'ai eu une autre expérience aussi de périmètre de quiétude avec des rapaces. C'était un rapace diurne, parce que c'était dans les années 90, les premières observations de la chouette de Tegmann. Et pareil, donc on a eu l'occasion, on a eu la situation où on a découvert qu'elle nichait en plein milieu d'une exploitation en cours. Donc il a fallu discuter, parlementer, pour essayer d'arrêter l'exploitation, mais là aussi, il y avait des sensibilités un peu différentes. Il y a eu beaucoup de... Il a fallu beaucoup de discussions. Donc vraiment, je pense que la sortie de ce livre, justement, c'est très important. Parce que connaître les espèces, savoir comment elles vivent, c'est vraiment la clé, et communiquer là-dessus. Et c'est la clé de leur préservation. C'est ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire après, quoi.
Justement, la chouette de Tengman, effectivement, elle s'est bien installée là depuis quelques années sur le territoire. Enfin, bien installée. En tout cas, elle est présente sur les Gouals et le Mont Lozère.
Elle est présente sur les Gouals et le Mont Lozère, présente parfois sur le Causse aussi. Pour autant, depuis quelques années, on a des fainés. Hein. On sait que la chouette de Tengman, elle est liée à la présence de rongeurs, notamment du campagnol roussâtre, qui peut parfois abonder quand les fainés sont conséquentes. Ça fait plusieurs années de sécheresse et de chaleur qui font que les fainés sont pas forcément ultra conséquentes. Et on a, pour 2025, par exemple, il n'y avait que 5 sites occupés par un malchanteur. Donc c'est pas énorme. Les dernières grandes, on va dire, où il y avait du monde, c'était plutôt 2017-2018. Donc, et puis il y a le réchauffement climatique, hein, la Tegmalm, elle n'est pas trop chaleur, elle est plutôt dans les faces nord, et je pense qu'il y a ça aussi qui fait que c'est un baisse un peu en ce moment. Après, à voir hein, si on réobserve des fainés conséquentes, si la population est toujours là, mais on ne peut pas dire que ça se porte super bien.
C'est fragile, du coup.
C'est fragile, ouais, quand même. Mm-hmm.
Et potentiellement, on parle du changement climatique, est-ce que des espèces qui ne sont pas présentes encore pourraient arriver sur notre territoire ?
Alors oui, bien sûr, depuis quelques années, là, 2-3 ans, on observe l'arrivée d'une autre espèce, là, l'aigle beauté, qui est un petit aigle de la taille d'une buse, qui s'installe plus en plus par chez nous, pas abondamment, hein. Aujourd'hui on a 8 ou 9 couples de détectés. Après, c'est une espèce très discrète, donc on a mis un peu le paquet avec des ornithos passionnés, des gens du coin, et puis le groupe Rapace pour essayer de localiser quelques couples. Il y a aussi les lagnons blancs, qui est une espèce qui était plutôt liée à la péninsule ibérique et puis au Pays Basque, puis maintenant qui remonte vraiment jusqu'au nord de la France. Donc ça, on peut penser que c'est dû au réchauffement climatique. Donc oui, il y a certaines espèces qui vont remonter. On l'observe déjà chez les passereaux, où on contacte des espèces qu'on n'avait pas avant, plutôt méditerranéennes, qui remontent. Donc oui, c'est fort à Paris que dans certaines années, on retrouve des espèces plus abondamment qu'auparavant à cause de ces réchauffements.
Ingrid, quelque chose à ajouter par rapport à ce guide ? Où est-ce qu'on peut le trouver ? Où est-ce que... Enfin, voilà.
Oui, donc c'est un guide dans son format papier au format paysage, il coûte 18,90 €. On peut le trouver dans les maisons du parc. Dans le réseau des partenaires du parc. On peut le trouver aussi à l'Hyper-U de Mende. Voilà. Et puis, il existe aussi dans un format numérique, téléchargeable à partir du site internet du parc en version gratuite. Voilà. Dedans, tous les petits liens qui apparaissent dans la version numérique sont activés. Donc ça, c'est un petit plus que permet le numérique aussi, notamment dans les ressources à la fin du livre. Voilà.
Très bien. Et on va en profiter pour parler d'un autre ouvrage hein, qui a été édité par les éditions Grenouille et écrit en partenariat avec le parc. Donc c'est le journal d'un aigle royal. Alors en quelques mots, de quoi ça parle ?
Alors ça, c'est un très beau petit livre. C'est une nouvelle collection d'une petite maison d'édition qui se trouve dans le Massif central, qui s'appelle donc les éditions Grenouille. Et ils développent dans un petit format qu'on peut emmener facilement avec soi la description d'une espèce, de sa vie, au jour le jour, sous la forme d'un journal. Et donc là, le premier est sur l'aigle royal. On a des collègues comme Bernard Rico, comme Christian Hitti qui ont participé, qui sont tous les deux des ex du parc. Voilà. Et puis d'autres collègues qui sont encore au parc aujourd'hui, notamment dans les relecteurs. Et donc voilà, donc c'est un très beau petit livre, très illustré, très pédagogique. On apprend énormément de choses. En fait, c'est un livre pour une édition jeunesse, un livre pour enfants à partir d'une dizaine d'années. Mais franchement, les adultes y apprendront aussi beaucoup de choses. Voilà. Donc, on peut le trouver, lui aussi, dans les maisons du parc. Et puis, ensuite, en librairie, bien sûr, parce que c'est une maison d'édition qui a son réseau de diffusion. Donc, on peut le trouver en librairie plus facilement qu'on trouve nos livres à nous, hein, qu'on diffuse par nous-mêmes.
Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose ? Juste peut-être le rappeler, effectivement, hein, sur le suivi, il y a énormément de partenaires hein, qui œuvrent aux côtés des agents. Enfin, sans tout ce réseau, ce serait quand même compliqué.
Oui. Ben, on s'appuie sur énormément d'ornithos passionnés, le COGAR, la LPO, et puis les bergers, les gens. Enfin, moi, j'essaie de mettre du lien avec tout ça parce que les gens du territoire, c'est eux qui les voient en premier lieu. Donc, des fois, on nous reproche, on dit vous nous avez pas dit que ça nichait là-bas et tout. Donc, j'essaie chaque année dans les missions qu'on a au sein du groupe Rapace, notamment pour chercher, par exemple, les nouveaux couples d'aigles bottés, d'inviter, de partager. Et puis, ça permet d'élargir les connaissances pour tout le monde. Et puis, de travailler en partenariat avec les gens, quoi. Voilà. Donc, oui, il y a beaucoup de gens. Et puis, il y a beaucoup de gens passionnés. Et puis, beaucoup de photographes aussi, amateurs qui s'intéressent. On essaie de sensibiliser aussi cette problématique-là, qui en devient une, il ne faut pas l'oublier.
Qui, de plus en plus.
Ouais. Donc, au niveau des photographes, un petit mot là-dessus. Attention, les sites de nidification, ce sont les sites où ces espèces-là sont le plus en danger. C'est là où elles sont le plus approchées, plus approchables. Et c'est bien, on arrive à faire des photos de près, mais on peut vraiment mettre à bas une nichée. Faut savoir que les rapaces, quand ils nichent, qui sont sur les œufs, sont vraiment capables de laisser tomber la nichée pour un dérangement occasionnel. Un rapace qui vous voit passer sous un nid, il va rien faire. Il va se prostrer, il va attendre que ça passe. Mais dès qu'on s'arrête, on le voit quand on les observe. Si notre distance elle est pas bonne, l'oiseau se lève et il part. Donc, ce sont des espèces qui sont très méfiantes sur leur site de nidification et la photographie, voilà. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nous. On peut conseiller pour de la photographie, de l'affût, comment faire. On peut le faire, on est à l'écoute et on peut comprendre aussi les gens passionnés qui veulent ne pas déranger, faire des photos dans de bonnes conditions. Mais on est là pour conseiller aussi si besoin.
Il y a quelque chose de très intéressant dans ce livre, c'est les QR codes avec le cri des oiseaux. Parce que souvent, on entend... on entend le son, on entend le cri, mais on ne les voit pas toujours. Donc apprendre à reconnaître comme ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et ça marche, j'ai testé.
Je voudrais ajouter aussi un petit mot. Donc c'est une édition maison qui a mis à contribution les collègues des services connaissance éveil du territoire et du service développement durable, forestier, la partie forestier et la partie agricole. Voilà, et les collègues du service accueil et sensibilisation. Donc, c'est un peu tout le monde dans la
maison. C'est un collectif.
C'est un collectif, ouais, de contributeurs. Pour les photos, c'est pareil. Beaucoup de photographies viennent de notre photothèque, des collègues qui font de la photographie de magnifique. Et puis, sinon, de notre réseau, notamment LPO, mais aussi d'autres collègues naturalistes. Voilà, on a de très, très belles photos aussi dans ce livre.
C'est noté. Merci. C'est la fin de cette émission et à bientôt.
C'est l'heure de Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. Séquence Parc sur le 107 FM.